Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1.
Christiane Rancé et Catherine Delamarre sont avec nous dans ce studio, Franck Ferrand, pour nous parler aujourd'hui de l'étonnante Sainte Thérèse d'Avila. Bonjour Franck.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Thérèse d'Avila, une des plus célèbres mystiques de tous les temps. Elle est née en 1515 donc, mais elle est morte dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582. Vous avez bien entendu, ma langue n'a pas fourché. La nuit du 4 au 15 octobre, parce qu'en fait, Thérèse d'Avila a rendu l'âme au moment même où l'on adoptait, en Espagne et d'une façon plus générale dans le monde chrétien, le calendrier grégorien. Je trouve cette coïncidence magnifique, comme si, en mourant, la sainte avait arraché 11 journées aux vivants.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Julien qui se demande si les gens du Moyen-Âge avaient conscience de vivre au Moyen-Âge.
La question de Julien, c'est celle de l'appellation des périodes historiques. Mmh. Je me demande bien entre nous quel nom on donnera à notre époque dans le futur. Vous voyez que nous nous posons de grandes questions en ce début d'après-midi sur Europe.
Europe 1. L'histoire.
Les grands portraits.
Franck Ferrand.
Pour moi, pour vous peut-être aussi, Thérèse d'Avila, c'est d'abord une sculpture. Et quelle sculpture, un des chefs-d'œuvre de l'art baroque, le chef-d'œuvre incontesté du Bernin. Il faut imaginer le marbre totalement transcendé, littéralement. Et plus vous approchez de ce groupe sculpté, plus votre admiration croît. Il y a là comme un certain vertige et même un trouble. C'est que la religieuse, la carmélite qui se trouve là sous vos yeux, a la tête jetée en arrière. Elle a l'air en plein orgasme, le corps saisi dans un mélange de félicité et de douleur. Eh bien, cette extase mystique que le sculpteur a si admirablement rendue, il semble bien que Thérèse l'ait vécue. Elle l'a vécue le 15 avril 1560, elle avait donc alors 45 ans. Pour elle, on peut dire que c'est un sommet dans un itinéraire spirituel qu'on imagine toujours assez linéaire, vu de loin, mais qui en vérité a été pour le moins accidenté. Et c'est justement cette Thérèse d'Avila, peut-être un peu moins connue, une Thérèse en proie à la maladie et à l'incertitude, qui va nous intéresser cet après-midi. Une Thérèse encore jeune et fragile, mais qui déjà annonce ce qu'elle va devenir, cette espèce de figure d'exception, une grande mystique, un auteur totalement inépuisable et qui aujourd'hui encore est lu partout dans le monde, et surtout l'inlassable réformatrice d'un ordre religieux. En 1535, Avila est une ville forteresse, comme on peut en trouver en Espagne. J'avais un ami qui disait « L'Espagne, ce sont des nonnes sur des tas de clés ». Il y a un petit peu de ça, évidemment, surtout dans cette Espagne du siècle d'or. Forteresse prospère, on est au sud de la vieille Castille, dans un des nombreux couvents que compte la cité. Thérèse de Cepeda y Ahumada est une religieuse, comme tant d'autres. Elle est originaire d'une famille noble. Cependant, son grand-père paternel était un juif converti, mais on ne sait pas si elle en était consciente elle-même. C'est une jeune fille tout à fait charmante, elle est très intelligente, elle n'a pas voulu se marier, elle est entrée en religion, elle a choisi une vie de prière au Carmel, comme sans doute pour elle, dans son esprit, le chemin le plus sûr vers le salut. Pour devenir religieuse, elle a dû braver l'opposition de sa famille, notamment de son père qui l'élève. C'est même, pour tout vous dire, en cachette, elle a 20 ans environ, c'est avec la complicité d'un de ses frères qu'elle a fui son foyer un matin de novembre pour aller rejoindre le couvent. Depuis qu'elle y vit, on pourrait penser qu'elle est heureuse, qu'elle est dans son monde, dans ce qu'elle a choisi. Or, elle vit de plus en plus mal. On a l'impression que, en dehors de certains moments de béatitude, sans doute, on a l'impression que quelque chose ne va pas. Dans son autobiographie, dans le récit qu'elle livre de son propre chemin, pour expliquer les maux qui l'assaillent alors, Thérèse invoque surtout le changement de vie et de nourriture. Oh, c'est un peu court quand même. Elle est désormais passée de l'autre côté, nous dit Christiane Rancé, et elle a compris que ce séjour durerait toute son éternité sur Terre, mais pour le supporter, il lui manque ce qui lui donne un sens, ce qui se justifie de ses heures d'oraison, de cette patience dans la prière, de cette sainteté dans la vie de groupe. Il lui manque non pas la foi, mais la vocation, cette foi en acte. Et c'est vrai que Thérèse va mal, de plus en plus mal. Sa santé se détériore, elle a de violents maux de cœur, elle multiplie les évanouissements, on la voit souvent la proie de terribles fièvres, elle est probablement atteinte d'épilepsie à cette époque, et son état est si préoccupant que son père décide de l'arracher, si je puis dire, à son couvent et de la conduire chez une guérisseuse, pas très loin de là. Néanmoins, le voyage est difficile et même très difficile pour elle. Ils font une halte chez un oncle de Thérèse, un homme très pieux, qui déjà avait sans doute une influence dans sa décision d'entrer au couvent. C'est cet oncle qui va l'encourager dans la lecture d'œuvres spirituelles, et ces œuvres, ces lectures pour elle, c'est sans doute le plus grand secours qu'elle aura eu dans cette période difficile. Alors elle arrive chez la guérisseuse, alors là, attention, il faut imaginer ce que peuvent être les traitements de l'époque. Je cite Christiane Rancé. Elle avale des décoctions étranges, des jus de racines, des essences et des extraits minéraux. Bon, vous vous dites, Céline, pour l'instant, tout va bien. Attendez. Elle se laisse couler dans des bains de sangsues. Ah oui. Elle boit le bézoar, calcul de bile animale, râpé dans du vin chaud. Elle mange des poux grillés, mélangés à du jaune d'œuf. On adjoint à ces bouillons d'herbe du vitriol vert, de l'écume d'argent du mercure. C'est sympa cette petite cure, non? La guérisseuse tente aussi les urines et les excréments d'un jeune homme cuit dans du miel, une potion qu'on décrète infaillible. Vous voyez un peu le régime. Tout ça n'arrange rien, ça ne vous surprendra pas. Et le père décide de rapatrier Thérèse chez lui. Mais la jeune fille n'a pas encore vécu le pire. Elle est complètement, elle est extrêmement faible à l'époque. Elle est très maigre. Elle va tomber dans le coma. On la croit morte, ou en tout cas à l'article de la mort, au point qu'au couvent, on va creuser sa tombe. Et voilà qu'au bout de 4 jours, nous dit Catherine de Lamarre, elle se réveille brusquement, paralysée, l'esprit confus, le corps asséché, désarticulé, la langue en lambeaux, la gorge serrée qui ne lui permettait plus d'avaler et retenait les mots, son corps étouffé, recroquevillé, disloqué, elle ne bougeait plus qu'un doigt de la main droite, elle est en grande partie paralysée, écrasée de douleur, et pourtant dès qu'elle le peut, elle demande à être reconduite au couvent. Et voilà ce que, dans le livre de la vie, dans son autobiographie spirituelle, voilà ce que dit Thérèse elle-même. On reçut donc en vie celle qu'on avait attendue morte, mais avec un corps dont l'aspect aurait inspiré moins de pitié s'il eût été privé de vie. Malgré tout, elle ne se résigne pas. Sa foi la soutient. Elle trouve du secours dans la lecture de ses ouvrages de spiritualité dont je vous parlais tout à l'heure. Elle prie Saint Joseph pour sa guérison et petit à petit, sa paralysie s'estompe. En 1540, elle est déclarée guérie, elle a seulement 25 ans, elle a frôlé la mort, mais ce n'est rien encore. Vous allez voir les épreuves qui l'attendent.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1. Europe 1.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits.
14h, 15h,
Franck Ferrand.
Et revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'incroyable, l'étonnante vie et passion de la religieuse Thérèse d'Avila.
Alors, ce que j'aurais peut-être dû vous dire, c'est que lorsqu'elle était toute jeune, lorsqu'elle avait 13 ans, cette Thérèse était un petit peu frivole. Quand je dis frivole, c'est excessif, mais il faut imaginer une jeune fille jolie, vive, pleine de malice. Elle a compris qu'elle sait plaire. Elle ne boude pas les fêtes. Il y a quelques petits rendez-vous secrets dans sa vie. On peut dire que elle commence à se perdre sur la carte du tendre. Assez gentiment quand même, mais vous voyez, suffisamment quand même pour inquiéter son père, qui l'envoie terminer ses études, enfin achever son éducation pour être plus exact, dans une institution religieuse. Cette adolescente, évidemment, Thérèse, beaucoup plus tard, la jugera avec une certaine sévérité. Mais dans la décennie qui suit sa guérison, ce dont je viens de vous parler, on ne peut pas dire que cet aspect de sa personne est totalement disparu. Elle est un peu ballottée entre deux personnalités, Thérèse. D'un côté, elle est rassérénée dans sa vocation religieuse maintenant qu'elle est guérie. Mais néanmoins, il y a autour le monde qui est là, qui bruisse et qui continue de l'attirer. Et elle garde ce besoin de plaire. Il faut imaginer dans un couvent carmélite où les règles primitives de l'ordre religieux ont été quand même très assouplies depuis les origines. Il faut imaginer mais une jeune femme qui reçoit régulièrement au parloir, où elle a de longs entretiens, elle s'intéresse aux petites affaires, elle s'intéresse encore à la vie du monde autour d'elle, si vous voulez. Vous comprenez donc qu'elle est assez tiraillée entre la foi, son parcours spirituel, et puis d'un autre côté, l'intérêt qu'elle peut porter au monde. Elle dit dans le livre de la vie, c'est formidable d'avoir ses propres paroles comme ça pour pouvoir en juger. « D'un côté, Dieu m'appelait, et de l'autre, je suivais le monde. Je trouvais dans les choses de Dieu de grandes délices, mais les chaînes du monde me tenaient encore captive. Je voulais, ce semble, allier ces deux contraires, si ennemis l'un de l'autre, la vie spirituelle avec ses douceurs et la vie d'essence avec ses plaisirs. » Elle affronte à cette période une crise spirituelle profonde jusqu'à abandonner plus d'un an la pratique de l'oraison. L'oraison, c'est cette prière qu'on fait en silence et qui est très répandue, qui joue un rôle essentiel dans la vie du couvent. Alors en public, elle essaie de faire bonne figure, mais dès qu'elle est seule, elle reconnaît avoir du mal à s'adresser à Dieu, elle se sent sèche, elle s'en veut de ne pas rompre vraiment avec le monde. C'est un combat spirituel. Et là, au milieu de ce combat quotidien, surviennent des événements étranges. Un jour, alors qu'elle est en pleine conversation avec un homme pour qui elle s'est prise d'amitié, elle a l'impression de recevoir un avertissement du Christ. Cet événement, évidemment, elle le comprend mal dans un premier temps, mais elle le vit comme un signe. De même, du reste, que la mort très chrétienne de son père. Pendant presque 15 ans, elle va continuer à rester néanmoins attachée au monde, si je puis dire. C'est une prise de conscience brutale qui, d'un seul coup, en 1554, va mettre un terme à tout ça. On est en plein carême. Ça fait 20 ans maintenant que notre Thérèse affronte cette espèce de crise intime. Et un jour, elle entre dans un oratoire, dans une salle de prière, et elle tombe, nez à nez, avec une statue qui représente Jésus supplicié, humilié, blessé, abandonné de tous. Et ça, c'est un véritable choc. Les larmes jaillirent, nous raconte Catherine de Lamarre. Elle avait presque 40 ans et la voix des pleurs s'ouvrit à elle. Le don des larmes lui donna accès à l'intimité du Christ dont les plaies béantes portaient le chaos du monde. Surgit en elle une conscience profonde éprouvée de la souffrance du Christ et plus que jamais la certitude de devoir prier, de le vénérer. Dans un état de douloureuse béatitude, elle sut que son territoire serait la solitude. Ah, cette fois, il n'est plus question des habitudes humaines, bien entendu. Elle vient d'entrer dans une toute nouvelle relation avec Dieu, une relation plus vivante, plus directe peut-être, dans laquelle la figure de Jésus est centrale. Dans le même temps, on lui donne à lire les confessions de saint Augustin, qui la touche profondément. C'est la voie du dialogue mystique qui a l'air enfin de s'ouvrir devant elle. Très rapidement, elle a des mouvements de ravissement, des sensations surnaturelles, des visions qui, vous allez le voir, vont se multiplier. Mais face à ces phénomènes tout à fait déroutants, ces phénomènes impressionnants, la question qui se pose pour elle bien sûr, mais aussi et surtout peut-être pour tous ceux qui l'entourent, c'est de savoir si tout cela vient de Dieu ou vient du diable.
Europe 1,
14h-15h,
au cœur de l'histoire,
les grands portraits.
Franck Ferrand.
Et retour avec vous, Franck Ferrand, dans l'Espagne du siècle d'or pour parler de la spiritualité de Thérèse d'Avila.
Et oui, vous avez raison de souligner cet aspect, parce qu'évidemment, on est en plein XVIe siècle dans une Espagne qui sort tout juste de la Reconquista, vous savez, de la reconquête chrétienne de toute la péninsule. Et à l'époque, évidemment, l'Inquisition est là qui veille. On soupçonne les musulmans, les juifs convertis d'être restés en secret fidèles à leur ancienne religion. Il y a cette réforme protestante qui pousse de partout, si je puis dire, et qui ébranle l'Église de Rome, ce qui fait que la surveillance, on va dire, est généralisée. Je vous parlais de l'Inquisition. L'Inquisition est particulièrement présente et puissante en Espagne. Vous savez, elle est là, elle est soupçonneuse. On est dans ce contexte d'ébullition religieuse. Il faut bien comprendre ça. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si l'époque est tellement riche en grands mystiques, du reste. On y reviendra tout à l'heure avec nos invités. Alors, peu avant que Thérèse commence à multiplier visions et extases, il faut savoir qu'une franciscaine, Magdalena de la Cruz, est devenue très célèbre dans toute l'Espagne pour les visions qu'elle avait, et finalement, elle a avoué que ces visions n'étaient qu'une imposture. Elle a été condamnée par l'Inquisition. Vous voyez le doute général. Et Thérèse, dans ces conditions, bien entendu, ne se sent pas du tout à l'aise avec ce qui est en train de lui arriver. Ces choses surprennent Thérèse en public à tout moment, nous dit Christiane Rancé. À la chapelle, dans l'oratoire, dans sa cellule, où elle geint et crie si fort qu'alertée, une moniale se précipite pour lui porter secours. Elle a peur du diable et tout autant d'être dénoncée par ses coreligionnaires qui assistent à ses débordements. Elle est malade d'angoisse à l'idée de chevaucher de démons décidés à livrer bataille à son âme et affectée par l'hostilité soudaine des religieuses. Les religieuses autour d'elle, on ne peut pas dire qu'elles soient forcément très bienveillantes. Hein. Il y a une certaine méfiance autour de Thérèse et des médisances, bien entendu. Et si, après tout, elle simulait, peut-être qu'elle se laisse abuser par son orgueil. On la sait un petit peu orgueilleuse, justement, quand je dis un petit peu. Avec prudence, Thérèse va chercher des guides spirituels. Elle va tout faire pour que des gens très compétents, des prélats, des personnes au-dessus de tout soupçon, soient là pour examiner son cas. Et pendant plusieurs années, on va voir d'éminents théologiens venir la rencontrer. Elle tente de leur expliquer ce qui, après tout, n'est peut-être pas explicable, en tout cas pas avec nos mots communs. Elle explique les espèces de paroles divines qu'elle reçoit, qu'elle ressent. Ces paroles sont parfaitement distinctes, peut-on lire sous sa plume dans le livre de la vie. Ces paroles sont parfaitement distinctes, mais on ne les entend pas avec les oreilles du corps. L'âme, néanmoins, les entend d'une manière beaucoup plus claire que si elle lui arrivait par les sens. Ça nous fascine, ça, forcément, là, il y a quelque chose. Alors, elle doit évidemment se plier à toute la discipline, elle accepte les confessions, les exercices spirituels, même toutes sortes de mortifications. À l'époque, ça peut vouloir dire, par exemple, porter le cilice, vous savez, cette espèce d'instrument de torture, hein, ces fils métalliques qui sont là et qui enserrent et mordent la chair. Et quand deux de ses confesseurs arrivent à la conclusion que ses visions, ses extases sont probablement d'origine diabolique, elle est la première ébranlée, comme si elle n'était pas le coupable, mais la victime, vous voyez. Au fond d'elle, elle est de plus en plus certaine d'être bel et bien en dialogue, non avec le diable, mais avec Dieu. Pour elle, ça, c'est une nouvelle épreuve que lui apporte le monde, en quelque sorte. Mais là encore, elle se révèle solide. Elle fait preuve d'habileté, tout en se montrant tout à fait docile. On la voit qui tient à ses visions. Elle ne baisse pas les bras et peu à peu, elle arrive à convaincre les gens autour d'elle. Et les phénomènes mystiques vont s'intensifier. Pour elle, ce sont des confirmations, à chaque fois, évidemment, de leur origine divine. Elle a des extases qui la saisissent sans qu'elle puisse y résister. Et puis, elle s'achemine vers ce sommet de l'extase en avril 1560, ce qu'on appelle la transverbération. Alors, difficile à expliquer la transverbération. J'ai presque envie de dire que la meilleure explication, c'est encore la statue du Bernin. C'est quelque chose d'un peu étonnant. Voilà ce que nous dit Thérèse elle-même. « Je voyais dans les mains de l'ange un long dard qui était d'or et dont la pointe de fer avait à l'extrémité un peu de feu. » De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard et me laissait tout embrasé d'amour de Dieu. Voilà la transverbération. C'est l'expérience d'une douleur intolérable dans laquelle se trouve, en fait, au fond de laquelle, pourrait-on dire, se trouve un bonheur extrême. Ça apparaît comme un nouveau signe de ce qui sera regardé comme une union mystique avec Dieu. Désormais, on peut dire que Thérèse va témoigner de cela toute sa vie. Elle va en témoigner dans ses écrits, ça vous l'aurez compris, mais elle en témoigne aussi peut-être d'abord dans ses actes, avec tous ses couvents, toutes ses fondations qu'elle va faire pendant le restant de ses jours. N'oubliez pas sa devise. Ir adelante, ce qui veut dire aller de l'avant. Bonjour Christiane Rancé, bonjour Catherine Delamarre, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, j'ai pris un tout petit peu de retard avec mon récit, nous allons mettre les bouchées doubles pour essayer d'y comprendre quelque chose à cette extase mystique de Sainte Thérèse d'Avila.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1. Europe 1.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits.
14h, 15h.
Franck Ferrand.
pour nous, 1515, c'est d'abord l'avènement de François Ier et la bataille de Marignan, le 13 septembre, mais c'est aussi 1515 l'époque d'un grand bouleversement religieux, d'un grand bouleversement politique. L'Europe est en train de se chercher spirituellement, Christiane Rancé.
Oui, c'est le premier siècle de l'époque moderne, c'est la fin du Moyen-Âge, d'une société tout à fait immobile, avec dominée par la foi catholique, avec le pape et le Vatican qui déterminent, qui adoubent les rois, qui les sacrent, et brusquement il y a ce grand craquement qui vient de plusieurs événements qui se passent. D'abord cette découverte de l'Amérique qu'on appelle les Indes à l'époque, qui va créer cette dilatation géographique. On a ensuite un individu qui est François-Xavier, le jésuite, qui décide, lui, qui va au Japon, donc il y a cette espèce d'énorme dilatation de l'espace. Il y a scientifiquement cette révolution copernicienne qui fait que tout d'un coup on découvre que l'univers ne tourne plus autour de la Terre, que cette Terre n'est plus la résidence de Dieu, avec cette bonne vieille Trinité qui était le bon, le beau, le juste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a cette angoisse métaphysique qui naît de tout ça, et puis il y a la déliquescence des mœurs de l'Église qui décide effectivement, qui crée cette espèce de réaction de la part de Luther et cette réforme.
On peut dire que Thérèse ne naît pas n'importe quand et qu'elle ne naît pas n'importe où non plus, Catherine de Lamarre. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est assez étonnant de voir à quel point sa famille est parfaitement emblématique de cette Espagne du siècle d'or, avec ses conquistadors, etc.
Oui, en effet. C'est vrai qu'elle ne naît pas n'importe où. Déjà, elle naît à Avila. Miguel de Unamuno disait que les murailles d'Avila c'était que déjà préfiguraient le château intérieur et que qui naissait à l'intérieur des murailles d'Avila devait grandir vers le ciel. Alors elle a effectivement sept frères conquistadors et
c'est quand même extraordinaire.
C'est
ça.
Tout à fait extraordinaire. Parmi ses frères, trois vont mourir là-bas, l'un en Argentine, l'autre au Pérou, l'autre au Panama. Elle a été très très marquée par son frère Rodrigo et je pense que son coma correspond
très très malade.
Voilà,
oui.
Que son coma correspond avec la disparition de ce frère. Il a été porté disparu dans l'expédition de Juan de Ayolas. Et dans l'expédition de Juan de Ayolas, il n'y a pas eu de survivants.
Et elle était très proche de ce frère.
Elle était très proche, parce que elle avait fait une fugue avec ce frère à l'âge de 7 ans. Ils étaient partis faire la guerre sainte pour se faire décapiter chez les Maures.
Mmh. Elle avait déjà, à cette époque-là, choisi d'entrer au couvent. C'est assez étonnant d'ailleurs. Rien de plus difficile pour nous qui vivons dans le siècle, nous dit Christiane Rancé. Le siècle, c'est la façon dont on parlait autrefois. Porté par les objectifs du siècle et parlant son langage, que de comprendre ce qui peut animer des jeunes filles au point qu'elles choisissent de leur plein gré de s'enfermer pour la vie. Quel profit retire-t-elle de cette contrainte à la même routine quotidienne faite de silence et d'horizon, et d'oraison, de prière? Pour les comprendre, peut-être faut-il les regarder non pas comme un groupe, mais comme la somme d'individualités infiniment plus uniques que nous ne le serons jamais. Il y a quelque chose de très spécial et de très particulier dans chaque vocation, en vérité.
Oui, bien sûr, parce que c'est une conquête sur soi. C'est exactement ce qui va déterminer le caractère de Thérèse d'Avila. C'est une jeune fille qui est très joyeuse, qui est très libre. C'est quelqu'un qui a un sens de la liberté individuelle extraordinairement forgé, mais comme beaucoup de femmes en Castille, n'oublions pas que la Castille et que la reconquête a été faite par Isabelle de Castille, qui était une femme et qui s'est dressée absolument contre les royautés qui l'entouraient et qui a refait ce pays. Thérèse d'Avila, c'est une castillane, c'est une jeune femme forte, volontaire, qui a toujours cette formule ir adelante, mais aussi d'une détermination déterminante, et elle est poussée effectivement par cette conquête de son propre destin. C'est pas un destin religieux immédiatement, c'est un destin de liberté. Parce que qu'est-ce qui attendait une jeune femme comme Thérèse d'Avila, qui était une femme,
et voilà.
C'était le mariage.
Et donc la soumission, disons-le.
La soumission à un homme, hein, on dit, il y a ce proverbe castillan,
famille,
à une
etc.
famille qui dit « Un castillan fonde une famille pour y enfermer, dans laquelle il enferme sa femme ». Donc effectivement, elle a vu sa mère, qui a quand même eu 9 enfants, qui a fini par mourir à 33 ans après la naissance de sa petite sœur Juana. Elle l'a vue tout le temps souffreteuse et malade, enfermée dans sa maison. Et elle a découvert que dans ce couvent où elle est envoyée, qui effectivement demeure très mitigée, elle peut avoir un accès aux livres, à la liberté, au monde, parler, recevoir. Et elle est en plus très intelligente et elle s'intéresse énormément à ce qui se passe dans le monde à ce moment-là.
C'est ça, elle n'est pas coupée. On a vu que pendant 20 ans, ça va durer, cette espèce de tiraillement entre d'un côté les séductions du monde et du siècle, comme vous dites, et d'un autre côté, la vocation religieuse et la voie qui va l'amener peu à peu vers cette espèce d'illumination quand même. Quand apparaissent ces premières manifestations que nous appellerions surnaturelles ?
Quand elle le désire, là encore. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a été très touchée par cette vision de cette statue, par ce que représente d'amour cet homme dont elle s'est fait l'épouse en prenant le voile.
Il faut dire pour ceux qui nous rejoindraient seulement qu'elle est tombée nez à nez, si j'ose dire, avec une statue du Christ à la colonne, hein, d'un Jésus humilié, flagellé, frappé,
sanguinolent. Et là, elle a compris combien ce Dieu se faisant homme a pu l'aimer, l'aime elle, et qu'elle ne lui rend rien du tout de cet amour, puisqu'elle passe ses après-midi à faire le joli cœur.
Faire la causette au parloir.
Elle a un amoureux, elle le dit elle-même, et il lui a été très difficile de s'en séparer. Donc à partir du moment où elle a cette révélation, où elle est vraiment touchée par cette proximité de cet homme aimant, de ce Christ qui est venu très près d'elle, elle décide avec une très grande volonté de prier pour aller à sa rencontre.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle aurait pu avoir peur, s'en aller, si je puis dire, s'enfuir à toutes jambes, et ne surtout pas vouloir que ce manifeste à nouveau ses visions et ses moments d'extase. Au contraire, elle y tient, elle va les rechercher d'une certaine manière et les défendre dans un milieu plus qu'hostile. C'est ce que nous voyons dans un instant.
Cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1.
Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Sainte Thérèse d'Avila avec vos invités, Christiane Rancé, auteure de La Passion de Thérèse d'Avila aux éditions Albin Michel, et Catherine Delamarre, auteure, elle, de Thérèse d'Avila, L'Oratoire et la Forteresse aux éditions Salvator.
Catherine Delamarre, évidemment, il fallait s'attendre à ce que la manifestation de tous ces phénomènes qui, en plus, distinguait particulièrement Thérèse dans son couvent, inquiète un peu ses supérieurs, inquiète le monde ecclésiastique, inquiète le monde en général. On va la mettre en examen, si j'ose cette expression.
Oui, ses confesseurs lui demandent de se justifier très fréquemment. Elle en souffre, d'ailleurs. Et en fait, elle va écrire le livre de sa vie. Comme pour justifier ce qui lui est arrivé. Mais à l'époque, on ne poursuivait pas trop les femmes, on les enfermait, quoi. Hein ? Oui. On les enfermait et elle va être à un moment donné, mais alors là, un peu plus tard, on va l'assigner à domicile parce qu'elle va être un peu trop remuante, un peu trop gênante. Et c'est là qu'elle écrira le château intérieur.
Alors justement, quand vous dites « elle écrit », c'est elle-même qui écrit, elle dicte, comment est-ce que ça se passe ?
Oui, alors elle écrit, et puis elle ne se relit pas. Elle écrit d'un jet. Elle écrit le soir dans sa cellule, où elle dort après sur un billot de bois, ses traits avec des draps qui grattent. Elle écrit fort tard, elle raconte tout d'un jet, et là elle joue à la femme soumise vraiment, elle dit on m'a demandé de faire ça, mais oui bien sûr, et pareil. D'ailleurs dans les procès de béatification et de canonisation, qui sont une source de 600 témoignages après sa mort sur ce qu'elle a été, enfin les moniales racontent, oui. On se rend compte que elle était apparemment soumise, mais que en réalité, elle ne l'était pas du tout. En fait, hein. Elle était.
Oui, elle cache bien son jeu. Elle est habile, oui. Finalement. Oui. L'habileté qu'elle mettait autrefois dans le monde, elle la met désormais dans la vie de cette vocation extraordinaire. Oui. Il faut dire un mot du texte lui-même, il faut dire un mot de sa façon d'écrire et de, comment pourrait-on dire, de la force des images qu'elle emploie, surtout.
Oui, et ces images d'ailleurs m'ont un peu troublée parce que ce sont souvent des images un peu militaires qui font référence aux romans de chevalerie. et qui, en plus, font référence à des choses qu'ont vécu ses frères aux Indes. Par exemple, elle compare les contemplatifs à des porte-étendards, et on se rend compte qu'un de ses frères était porte-étendard à Iñakito, et qu'il a défrayé la chronique à l'époque, parce qu'en pleine bataille, il a lâché l'étendard, et le cheval est parti au galop. Et ça ne se fait pas du tout. Et elle a reparlé après cette histoire d'étendard, comme pour redorer, au fond, le blason de son frère.
C'est très intéressant, cette dimension biographique et familiale que vous donnez au personnage.
Ça ouvre des perspectives.
Ça l'enracine et ça la rend peut-être un peu plus humaine face à des phénomènes dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont rien de très humain. À quoi ressemblent les extases de Thérèse d'Avila, Christiane Rancé?
Ça, c'est indicible parce qu'il faut les avoir vécues pour les comprendre. Mais effectivement, il faut admettre que c'est une femme qui tout d'un coup entre en elle et rencontre effectivement la vision de Dieu. Donc seuls ceux qui ont pu faire ce voyage et avoir ces visions peuvent le comprendre. Mais ce qui m'a vraiment passionnée chez cette femme, ce que je trouve extraordinaire chez elle, c'est tout d'un coup cette espèce de jet d'écriture qu'elle n'a pas dans le livre de la vie. Le livre de la vie, on lui demande de le rédiger. Elle est contrainte. C'est parce que d'abord, le siècle veut faire des saintes. Il faut savoir qu'on est dans un pays où tout d'un coup il y a une espèce d'exaspération religieuse. L'Espagne, Philippe II veut absolument donner l'exemple de la ressaisie du catholicisme contre la réforme luthérienne. Donc on va se servir effectivement des femmes, on va leur demander d'être des saintes, et être des saintes pour des femmes, une fois qu'elles sont au couvent, c'est par la prière. Elle, effectivement, elle a ces débordements qui troublent un petit peu et qui sont surtout très mal vus par ses contemporaines, tout simplement parce qu'il y a ces monastères mitigés qui sont en fin de compte des espèces de pensionnats, notamment en Andalousie, où on fait carrière, on rentre dans les ordres avec son titre, avec ses domestiques, avec son rang, avec ses biens, et elle va se démarquer totalement en appelant à la pauvreté, en s'habillant comme une pauvresse, en demandant qu'il n'y ait aucun signe extérieur de richesse, et elle va rentrer effectivement dans cette oraison. Ses confesseurs vont lui dire, écoutez, pour qu'on comprenne bien, vous allez vous donner en exemple, vous allez raconter ce qui vous arrive, et elle regrette que ce soit fait sous la dictée. Elle écrit elle-même, si on m'avait laissé écrire, comme je l'aurais entendu.
Voilà, c'est bien ça,
Là, on aurait vraiment dit, elle aurait pu vraiment dire la vérité sur ce qui l'avait motivée. Ensuite, elle va écrire à la demande de ses moniales, c'est-à-dire des jeunes religieuses qu'elle va former quand elle va faire cette première réforme du couvent San José à Avila, contre toute la ville, parce que ça va se passer littéralement dans les coups, avec intervention du maire, avec intervention de toute la population, furieuse, parce qu'un monastère de plus, ça veut dire donner encore de l'argent. Ce sont des gens qui vivent de mendicité, puisque les dots ne suffisent pas, donc elle est très très mal vue, et puis cette espèce d'exemple, cette façon de donner des leçons aux autres en expliquant qu'ils vont être pauvres, c'est insupportable. Et puis un jour, effectivement, elle va être tellement possédée, d'une certaine façon, dans le bon sens du terme, bien sûr, par cette immense expérience mystique, qu'elle va décider de l'écrire. Et là, elle va écrire, il y a une sœur qui rentre dans sa cellule à ce moment-là, le visage incandescent, dans une espèce de fougue, de jet extraordinaire, et ça va donner ce chef-d'œuvre de la littérature qui s'appelle Le Château intérieur, et qui est un chef-d'œuvre.
Il n'est pas loin d'une révélation.
Oui, mais en même temps, d'un immense, il faut le dire aussi, c'est un immense écrivain. C'est pas un hasard si aujourd'hui elle est rentrée dans la Pléiade. Ça n'est pas un hasard si tout au long de l'histoire de la littérature, elle a été reprise par les plus grands écrivains, simplement...
Oui, sa postérité est incroyable.
Incroyable. Paul Verlaine va parler d'elle.
Oui.
Pierre Janjou va parler d'elle. Cioran, le grand philosophe du désespoir, s'en inspire. Bergson, n'en parlons pas. Mais c'est aussi Simone de Beauvoir, qui est quand même un écrivain de la condition féminine, qui va s'appuyer sur elle, comme Marguerite Yourcenar ou Marguerite Duras.
C'est intéressant, cette dimension condition féminine, qui vous a beaucoup intéressé dans le personnage, évidemment.
Ah ben bien sûr, moi, il y a deux choses qui m'ont passionnée, mais vraiment dans le personnage de Thérèse d'Avila. C'est d'abord cette façon de passer au-dessus, de ressaisir son destin. C'est une femme, mais elle va être d'une virilité extraordinaire dans sa décision. Elle va quand même réformer un ordre contre tout le monde. Elle va même réformer l'ordre des hommes. C'est-à-dire qu'elle va appeler à elle le Jean de la Croix, c'est-à-dire qu'on va venir la voir et elle va dire « Bon, mais j'ai réformé les monastères de femmes, mais aussi d'hommes. » Et c'est les premiers carmes des chaussées qui vont être créés grâce à Thérèse d'Avila. Et elle va parcourir le monde à une époque où prendre la route pour une femme, c'est extrêmement mal vu.
C'est-à-dire que ça, on parle de sa postérité, mais il y a aussi son rayonnement de son vivant. Ça, ça a été immense, Catherine Delamarre.
Oui, son rayonnement très très grand, puisque à la fin de sa vie, quand elle apparaissait, les gens escaladaient les murs, les fenêtres, enfin, ils étaient tous aux fenêtres. Enfin, elle a eu à la fin une très grande postérité, et elle disait que sa notoriété, bon, ça lui était égal, que tout ça c'était des tours de vent, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire torres de viento, c'est-à-dire c'était rien du tout, c'était des châteaux de cartes. Et justement, pour ce féminisme à l'intérieur des couvents, quand on lit les procès de béatification, on se rend compte à quel point il y a une solidarité et à quel point il y a des drames à l'intérieur des couvents. Il y a l'histoire d'une fille qui a perdu la parole parce qu'on l'a empêchée d'épouser l'homme qu'elle aimait, et elle est morte d'un chagrin d'amour. Il y a une petite fille de 12 ans qui fait mine de chercher du bois et qui s'accroche à la croix en disant qu'elle va être moniale. Il y a des femmes qui se déguisent en hommes pour échapper à leurs parents qui rejettent leur vocation. Il y a une femme qui a la lèpre et qu'elle soigne tout en connaissant les risques de contagion. Et en fait, il y a une très grande solidarité presque secrète à l'intérieur de ces couvents. Et je me demande parfois si le vrai féminisme, enfin si en tout cas un des aspects les plus importants, disons, du féminisme de Thérèse d'Avila ne se trouvait pas dans les murs avec ses histoires secrètes. Elle-même...
Dans le secret des couvents.
Dans le secret des couvents, elle-même avait souffert de la répression de son père quand effectivement elle s'intéressait un peu trop aux jeunes gens. Il y avait un autoritarisme terrible. Les femmes de l'époque...
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le couvent comme source de libération d'une certaine manière, enfin toute relative néanmoins.
Ça peut se voir comme ça, d'après les témoignages.
D'émancipation, en tout
d'après
cas.
Les témoignages.
Oui, d'abord parce que les petites filles n'ont pas le droit d'apprendre à lire et à écrire. Il faut quand même le remettre dans le contexte. Thérèse a appris par-dessus l'épaule de ses frères. Donc ça, c'est important. Elle est intelligente. Elle a cette soif de connaissances. Et elle demande toujours, quand les petites moniales arrivent et ne savent pas lire, la première chose qu'elle fait, c'est leur apprendre à lire. Et elle leur explique que la liberté, ça commence par là. Ça commence par... cette curiosité au monde, ça c'est la première chose. La deuxième chose en quoi elle est extraordinairement révolutionnaire, c'est qu'elle a une parfaite conscience de ce qui se passe dans l'époque et notamment de ce que nous vivons aujourd'hui, qui est effectivement cette crise financière sans précédent. L'Espagne a été, on va dire, dévastée par l'afflux d'or des Amériques.
Bien sûr.
Les gens se sont arrêtés de travailler.
Tout devenait trop facile.
Tout, voilà, ils ont placé leur argent, mais exactement avec la bulle financière aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mmh. Et donc, il y a eu un chômage incroyable, des jeunes filles qui se retrouvent sans fiancés parce que les hommes sont partis pour les Indes. Et donc, on exige pour rentrer dans les couvents qu'elles aient des dots. Et c'est la première qui va renoncer à cette... on va dire, contre-pouvoir financier, en disant la vocation, on peut avoir la vocation sans demander qu'il y ait de l'argent pour autant.
L'Espagne de l'époque a deux passions, c'est la folie nobiliaire et également la religion. C'est-à-dire qu'on veut être hidalgo, comme était le père de Teresa, on achetait les titres de noblesse. Et puis, il y a cette folie des couvents. À la fin du règne de Philippe II, le tiers de la population est dans les couvents.
Merci beaucoup. On aura compris que cette transverbération, ce moment d'extase incandescente, n'est un peu que l'arbre qui cache toute la forêt, Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, l'oratoire et la forteresse de Catherine Delamarre, c'est chez Salvatore. Christiane Rancé, la passion de Thérèse d'Avila, Albin Michel. Il y a également d'autres livres. Pour les trouver, le mieux, c'est d'aller voir sur notre site.
Et dans un petit instant, Franck Ferrand vous répondrait à la question de Julien, envoyée via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Il vous demande si les gens du Moyen-Âge avaient conscience de vivre au Moyen-Âge.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck, à la question de Julien, qui nous a envoyé via notre site europe1.fr. Il vous demande si les gens du Moyen-Âge avaient conscience de vivre au Moyen-Âge. Qui a donc baptisé les grandes périodes de l'histoire et puis de quand ça date ?
Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement toutes ces appellations sont toujours postérieures naturellement. Quand on parle de l'Antiquité, c'est une notion qui ne naît qu'au début et même en fait au milieu du XVIe siècle, qui prend en tout cas son sens historique pour désigner cette très longue période hein, qui va de plusieurs siècles avant notre ère jusqu'en 476, qui est la date retenue de manière unanime par les historiens comme c'est le 476. C'est la chute de l'Empire romain d'Occident et c'est la fin de l'Antiquité, le début du fameux Moyen-Âge qui va s'achever lui-même avec la chute de Constantinople en 1453. Alors, depuis quand est-ce qu'on parle du Moyen-Âge ? Eh bien, on en parle depuis la fin, au milieu, fin du XVIIe siècle, en fait. Et la notion va se populariser, va se développer au XVIIIe et encore au XIXe siècle. Pourquoi Moyen-Âge ? Parce qu'on est entre l'Antiquité et la Nouvelle Antiquité, c'est-à-dire la Renaissance, qui commence donc au XVe siècle et qui s'achève, vous savez, à la fin du XVIe siècle. Ce qui signifie, entre parenthèses, qu'on considère le Moyen-Âge comme une espèce de très longue période de transition, ce qui est assez injuste et probablement assez faux. Alors la Renaissance elle-même, elle s'achève, je vous dis, à la fin du XVIe siècle. Ensuite, ce sont les temps modernes. Alors est-ce que les temps modernes s'arrêtent en 1789, comme on le disait quand moi je faisais mes études, ou en 1870, comme on le dit maintenant? Ben, il faut peut-être évoluer avec son temps. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel nom on donnera un jour à notre époque. Ça, c'est la question qui concernera les historiens du futur. Mais après tout, les paris sont ouverts et chacun peut trouver un nom. À mon avis, ce ne sera pas forcément très flatteur. Merci beaucoup Bénédicte, nous nous retrouvons lundi.
Merci Franck Ferrand, à lundi bien sûr et avec grand plaisir, comme d'habitude, à suivre sur Europe 1 Qui Vive avec Raphaël Antoven qui nous dit qu'il est sage de manger de la viande, il va nous expliquer pourquoi, avec son invité, le philosophe Dominique Lestel.